Isère Classique, le magazine musical de RCF Isère, présenté cette semaine par Éric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Jean-Yves Bizot, bonjour.
Bonjour Éric.
Bienvenue dans nos studios de RCF. Vous êtes notre invité pour une série de deux entretiens qui font d'ailleurs suite à ceux du professeur Magnard, qui les considère comme une référence dans sa carrière de philosophe. Souhaitons qu'il en soit de même pour vous, même si a priori, vous n'avez pas le statut de philosophe.
Non, je n'ai pas le statut de philosophe.
Voilà, donc nous sommes déjà d'accord sur ce point. Voilà, vous êtes un vigneron bourguignon de Vosne-Romanée. Alors, je précise, minimaliste dans sa production et infinitésimal dans sa communication. Comment, avec cette confidentialité et ce souci de la discrétion, êtes-vous parvenu, en si peu de temps, à une telle notoriété avec des bouteilles que les amateurs de la planète s'arrachent dans un vacarme proche de l'idolâtrie? Parce que c'est la situation.
Oui, c'est une situation qui est assez récente. Hein, depuis 2-3 ans, effectivement, il y a une grosse évolution sur la demande 2020. Alors après, comment j'y suis parvenu? Alors c'est vrai que si on prend sur l'échelle de la vie de la Bourgogne, 25 ans, c'est court. Si je considère l'échelle d'une vie, c'est quand même déjà une belle tranche de vie quand même. Voilà. Donc en 25 ans, je suis parti d'un domaine qui n'existait pas, effectivement à la création d'un domaine qui avec une toute petite production, arrive à avoir une grande réputation, une grosse réputation. Oui. Alors comment ça s'est passé? Il y a des fois, moi-même, je me le demande aussi, donc la réponse, on n'a pas forcément. C'est une situation qui est enviable, parce que c'est quand même toujours agréable que son produit soit demandé. Après, ce n'est pas forcément une situation toujours confortable, parce que justement, trop de demandes est des fois un peu étouffant.
Oui, parce que malgré tout, je compare souvent votre renommée à celle du Château Rayas, mais Château Rayas a quand même un demi-siècle d'histoire en plus.
Oui. Et puis quelques hectares supplémentaires aussi.
Oui. Mais par rapport à vos collègues bourguignons, qui sont renommés par rapport à la hiérarchie de leur parcelle et de leur cru, vous, ce n'est pas le cas du tout.
Alors, en étant installé à Vosne-Romanée, au départ, on a quand même déjà
un avis favorable.
Un avis favorable. On a déjà quand même une belle poignée de cartes dans la main. Je serais quand même un peu gonflé de dire que je suis parti avec rien. En Vosne-Romanée, c'est pas rien. Un bout des chezeaux, c'est un grand cru, c'est pas rien non plus. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai 2,5 hectares au départ. Et 2,5 hectares sur Vosne-Romanée, ça fait pas non plus, quelque chose de mythique. Voilà. Et comment on arrive à faire fonctionner une exploitation avec une toute petite surface comme ça? C'était mon challenge, mon challenge, parce qu'on va parler français. Comment, finalement, avec ce qu'on a, faire le mieux? Ou sortir par le haut, c'est facile, surtout quand on est petit. Le discours habituel, c'est à les petits domaines en Bourgogne. Donc les petits domaines, on s'excuse un peu des choses. On est petit domaine, alors on se met pas sur les bons marchés, on est petit domaine, donc on reste modeste dans ses ambitions. Moi, je pense que la taille initiale n'a pas d'importance. C'est ce qu'on veut faire au final qui compte. Donc le statut de départ, c'est le fait d'avoir juste 2,5 hectares, c'est juste un statut qui n'est pas neutre, qui n'est pas nul, mais qui permet d'avoir un développement. Enfin, il faut de l'ambition.
D'accord. On va rester dans votre modestie, puisque pour nos deux émissions, je vous ai mis en perspective avec une mosaïque de compositeurs, avec tous des trajectoires bien différentes. Celui que nous allons écouter maintenant se décline ainsi. Lorsque j'écrivais quelque chose de délibérément triste, les gens et les critiques avaient tendance à rigoler. Je décidais de renoncer à la composition, mais le charme de l'inattendu m'a alors poussé à insérer divers objets entre les cordes d'un piano pour rappeler que cet instrument représentatif de la noblesse de la musique occidentale est également une mécanique et qu'il ne faut jamais oublier la dimension artisanale de l'art. Donc nous allons écouter le deuxième interlude pour piano préparé de John Cage par Boris Berman. Jean-Yves Bizot, John Cage. Alors là, je vais vous taquiner un peu, mais je crois que vous êtes là pour ça aussi. Vous arrive-t-il, à l'instar de ce compositeur, d'établir des structures nouvelles, de désarticuler les règles, de fabriquer des renoncements, de créer de l'improvisation, pour les faire exister dans le vin, comme pour déverser des cheminements en infraction afin de poursuivre la construction de l'édifice?
Il y a une formule que j'ai bien aimée dans la présentation que vous faisiez de la musique, c'est la dimension artisanale qu'évoquait John Cage. La dimension artisanale, oui, c'est une dimension importante, c'est le geste, c'est la main. Et on a toujours tendance à parler de l'intelligence de la main versus l'intelligence cérébrale. Pour moi, c'est deux choses qui vont tout à fait ensemble. Enfin, Léonard disait que toute la pensée devait conduire au geste. Et quand on pense, forcément, on déstructure parce qu'on analyse. Donc le geste, oui, bien sûr, dans mon cheminement, évidemment, je réfléchis, je déstructure, et ce qui me permet d'analyser autrement. Si on prend la création, c'est un dessin que j'ai toujours beaucoup aimé d'Hergé. À un moment, ça va être Tintin chez les soviets, il tombe en panne, Tintin démonte sa voiture. Bon, il a tout mis le moteur sur la route, et il ne sait pas la remonter, donc il remet toutes les pièces du moteur dans le capot, puis la voiture repart, voilà. Donc il a tout démonté, il a tout reconstitué, mais autrement, voilà. Ouais. Ça fonctionne aussi. Voilà.
Est-ce que malgré tout, ce n'est pas un ajustement qui permet de s'approcher à contresens? Parce que là, on est dans une dérive. On cherche quelque chose qui est établi, mais à le dépasser, mais sans savoir où on va. Et vous, en tant que vigneron, est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir cette perspective en disant, voilà, je suis dans un chemin, mais je vais avoir besoin d'autre chose?
De toute façon, à partir du moment où il y a un chemin, sauf si c'est vraiment un chemin qui est repéré sur une carte et très balisé, il y a forcément de l'inconnu. Donc, oui, il y a toujours besoin d'autre chose, il faut toujours se nourrir d'autres éléments pour continuer d'avancer. Ce qui est intéressant là, sur la côte viticole, on a quelque chose, par rapport au piano de John Cage qu'il va préparer, on a quelque chose qui est déjà très organisé, voilà, qui est déjà préparé quelque part. Hein, la côte, il y a les délimitations, les lieux dits, les grands crus, premiers crus, etc. Voilà. Moi, je vais dépréparer la côte. Voilà. Je démonte petit à petit tous les objets pour arriver à savoir ce qu'on peut peut-être en faire autrement. Et puis, peut-être aussi pour revenir à l'essence de ce qu'est le vin. Finalement, le vin, c'est un produit qui est aussi de la vigne, qui pousse sur une parcelle.
Alors, on va essayer de continuer à démonter dans votre réflexion. 24 décembre 1931, c'est le nom de l'œuvre que nous allons découvrir, année de naissance du compositeur, mais aussi Réveillon de Noël, donc est chanté par un dictateur dont la propre célébration sombre dans une folie qui va anéantir la musique. Alors, Maurizio Kagel parle de délire associé à une volonté de faire table rase de tout, une sorte de Père Noël qui fait sonner les cloches d'un futur sans ambiguïté.
Glockengeläut morgens früh halb sieben. Halb sieben dortiger Zeit. Drahtloses Geläut aus Palästina. Morgens früh halb sieben dortiger Zeit. Wird Canonicus Bridgman in der Geburtskirche zu Bethlehem auf einen elektrischen Knopf drücken.
Jean-Yves Bizot, on a l'impression d'un écroulement d'église, comme un effondrement de la chrétienté. Le vin et la religion entretiennent depuis l'Antiquité des rapports étroits. Quelle est aujourd'hui la position du vigneron dans cette imprégnation mémorielle? Ses gestes portent-ils toujours l'héritage d'une transmission en concordance avec sa pensée? C'est une dimension qui se perpétue ou pas?
Alors, oui, c'est toute une dimension spirituelle. Justement, dans la répétition du geste, alors, le geste qui est toujours répété, mais qui ne peut jamais être exactement le même, puisque les circonstances changent toujours aussi. On ne taille pas la vigne aujourd'hui comme on la taillait chez les Égyptiens. On ne la taille pas non plus comme on l'a taillé au 18e, parce qu'on n'a pas les mêmes outils. On n'a pas pas forcément les mêmes cépages, pas les mêmes conditions de production, enfin les mêmes modes de production. Donc oui, effectivement, c'est un geste qui se répète et qui est quasiment intemporel. Pour moi, le monde du vin, on rentre dans quelque chose qui nous relie aux premiers hommes qui ont fait du vin.
Ouais. Est-ce que l'attitude morale peut évoluer? Est-ce que c'est concevable?
Alors, je dirais oui. À partir du moment où il y a vraiment un côté marchandisation du produit, je pense qu'on peut arriver à faire du vin juste pour l'objectif de faire de l'argent quelque part. Donc, c'est quand on produit de manière, on va dire, plus traditionnelle, l'objectif c'est aussi d'en vivre. Mais avec le développement de la technique, on peut aussi effectivement s'affranchir de l'homme. On peut tailler des vignes aujourd'hui sans avec des machines, avec des robots. Et on peut aussi travailler la vigne avec des machines. Donc toute cette dimension du geste disparaît. Il y a toute une dimension spirituelle qui est liée au geste aussi, qui s'estompe. Donc on peut... pour moi, c'est véritablement un risque. Transformer le vin en produit complètement industriel. Voilà. Mmh. Chose que nous rappelle John Cage avec son piano. Un piano, on tape une note, on tape sur une touche, on a une note.
Oui, oui.
Et on attend la note. Voilà. Mais à la limite, on peut faire aussi taper par un robot sur le piano. On a reçu une note. Mais c'est pas une main pianiste.
Je voudrais revenir sur votre parcours. Alors, c'est une question un petit peu malicieuse, vous allez me pardonner, mais vous êtes géologue de formation et vous demeurez toujours très courtois envers le bavardage autour du terroir. Parler terroir avec des buveurs qui, en général, ne font pas la différence entre un caillou et une boule de pétanque, est-ce que ça vous demande des prédispositions à la bienveillance ?
Là, oui, c'est une question très malicieuse. Alors,
elle est malicieuse, mais en même temps, je crois qu'elle est essentielle.
Ouais. Ah, ben, tout à fait. Non, mais parce que c'est vraiment, enfin, c'est notre fonds de commerce pour parler un peu de manière un peu commune. Ce fonds de commerce, finalement, c'est la notion de terroir, c'est une notion qu'on appréhende de manière toujours très partielle. Puisque voilà, souvent on le réduit à la terre, terrain, dans le enfin, terre au sens de terrain. Bon, alors que le terroir, c'est du territoire, c'est déjà une surface, c'est une communauté d'hommes, c'est tout un ensemble de choses. Pour moi, on le réduit avec nos discours commerciaux à des notions qui sont trop simplistes. Voilà, c'est quelque chose, c'est une appartenance culturelle, c'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble de projections, pas forcément de tradition, hein, mais pour moi, de volonté de faire quelque chose, hein, de sortir quelque chose de la parcelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je rappelais que le vin, c'est pas l'appellation. Le vin, c'est un produit issu d'une vigne à partir d'une parcelle de terrain.
Nous allons poursuivre avec Gabriel Fauré, que Vladimir Jankélévitch décrit comme un art, l'art du jardin clos, l'espace enchanté de la poésie. Une musique qui exige une rare application du cœur et de l'intelligence que l'on aime pour elle-même plutôt que pour la littérature dont elle sert de prétexte.
Thank you.
Sanctus du Requiem de Forêt. Jean-Yves Bizot, quand j'ai préparé cette émission, je me suis entretenu avec le professeur Magnard, qui m'a de temps en temps un peu débroussaillé ma pensée, qui se permet d'être confuse de temps en temps, comme vous le savez. Et par rapport aux éléments que je lui ai apportés sur vous, il m'a fait cette description. Alors, je vous la lis. Son esprit cherche l'impalpable, le charme insaisissable, le secret qui se dérobe dans des étoiles qui innovent sans cesse, pour trouver ce point intraduisible, ce résidu irréductible à l'analyse, qui serait l'entrée fracassante du charme vers le silence d'une métaphysique de la vigne.
Parce qu'il faut que je fasse un commentaire.
c'est profond.
C'est profond, tout à fait. Oui, c'est...
et je crois que ça correspond... Alors évidemment, ça vous oblige à l'épuiser aussi, à travers cette analyse, dans une réponse en cohérence. Vous voulez que je joue le...
Si vous pouvez la relire.
Oui. Alors, l'esprit de Jean-Yves Bizot cherche l'impalpable, le charme insaisissable, le secret qui se dérobe dans des étoiles qui innovent sans cesse, pour trouver ce point intraduisible, ce résidu irréductible à l'analyse qui serait l'entrée fracassante du charme vers le silence d'une métaphysique de la vigne. Bah, moi, je trouve ça extraordinaire comme phrase.
Ah oui, c'est une quête. Alors, c'est une quête. Alors, je ne sais pas si je suis à la hauteur de cette description, mais ça me fait plaisir quand même qu'on puisse penser ça de moi. De toute façon, si j'arrive à faire le vin, qui est pour moi, si j'arrive à aboutir ma recherche dans le vin, je j'arrêterai. Ça vaut plus le coup de faire du vin.
Alors, je voudrais apporter une précision. Parce que là, quand vous dites le jour où j'arrive à un aboutissement, j'arrête. Yevgeny Mravinsky, qui était un grand chef d'orchestre russe, à l'orchestre de Leningrad, qui pour moi est probablement le plus grand chef, il a un jour interprété la 7e de Bruckner, et à la répétition générale, il a dit « on arrête, je ne pourrai jamais plus la jouer aussi bien ». Il a annulé le concert, et il n'a plus jamais joué de sa vie. Mm. Vous pensez que ça peut vous arriver, ça ?
Je pense que oui, c'est possible. Oui. oui, parce que mais bon, alors, en se disant on cherche quelque chose d'insaisissable. Le vin parfait n'existe pas, mais on voudrait peut-être qu'il existe. Donc c'est cette quête qu'on mène, cette recherche, mais ça va au-delà, c'est une quête spirituelle. Voilà, et une fois qu'on aboutit, on se retire. Je pense qu'on peut se retirer du monde, quoi. C'est pas forcément se disparaître, mais se retirer, quoi, du monde du siècle, comme on pourrait dire.
Oui, oui. Nous allons poursuivre, Jean-Yves Bizot, la déclinaison de notre mosaïque, avec un compositeur qui va compléter encore un peu différemment l'échiquier, c'est Giacinto Celsi. Alors, il veut libérer le son de la musique, et il veut se déposséder des servitudes, notamment de la temporalité, mais moi je trouve qu'il remplit finalement un espace vide, avec une musique qui est captivante, mais qui n'a plus aucune direction. Et finalement, on est dans une impasse. Alors, on va écouter ce passage. Jean-Yves Bizot, Jacinto Chelsea. Musique, musique, pas musique. On est quelque part, on est nulle part.
On est dans quelque chose de... dans une forme nouvelle, je pense, quelque chose d'assez étrange. Alors oui, c'est de la musique si on considère que la musique, c'est un bruit organisé. Et là, c'est organisé, bien sûr. Après, c'est une musique, effectivement, qui est très statique, qui ne bouge pas, qui est... je dirais qu'elle ressemble peut-être assez à notre société, qui aspire à une forme d'immobilisme, hein, quelque chose qui ne veut plus avancer ou ne veut pas avancer, comme si on était arrivé à une espèce de point d'acmé, une acmé où tout mouvement forcément peut conduire à la destruction. Mais c'est presque... le mouvement, c'est la vie.
Ouais. Donc, je vous propose de continuer à avancer lors de notre prochaine émission et nous serons ravis de vous retrouver.
Merci.